Bonjour. Je vais lire trois passages dans la Bible ce matin pour commencer. Et puis, il y a un fil rouge sur ces trois passages. Et vous me direz si vous l'avez vu. Alors, le contexte du premier passage, c'est 10 ans après que l'Église a démarré avec la Pentecôte. Ça se trouve à 600 kilomètres, Antioche. Actuellement, c'est l'extrême sud de la Turquie, près de Alep. Et puis là, il y a une église qui s'est créée, qui progresse, qui va bien. Et puis les gens à Jérusalem, les responsables, se sont dit, on va envoyer quelqu'un pour voir, pour témoigner comment est-ce que c'est. Inutile de dire qu'il n'y a pas le smartphone ou autre, hein. Et c'était 3 semaines de marche, peut-être, pour y aller. Hein. Voilà. C'est dans Actes 11, 22. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse. Tarse, c'est encore, je ne sais pas, 200 kilomètres plus loin. C'est toujours en Turquie, hein, actuelle, hein, pour aller chercher qui ? Saul. Saul, c'est Paul. Hein. Saul et Paul, il avait deux noms, c'est un double national. Et puis, apparemment, il était à Tarse, d'où il venait. Hein. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Deuxième texte que je prends, je vous donne aussi le contexte. Il s'agit aussi de Paul, mais cette fois Paul, malheureusement pour lui, mais il est emprisonné. Et puis il est dans une prison romaine, c'est Festus le gouverneur. Et puis voilà que Festus invite, j'allais presque dire un ami, le roi Agrippa, c'est plutôt un roitelet qu'un roi. Je ne veux pas vous parler d'Agrippa parce que je crois que je me perdrai dans mes explications, puis je vous perdrai avec. Hein. Mais disons que Festus, c'est un Romain qui ne connaît rien du tout à cet évangile, j'allais dire. Et puis Agrippa, oui, il a des connaissances. Hein. Alors, je lis... ceci dans Acte. Alors, je dois prendre mon petit ticket. Oui. Acte 26, 24. Alors, ça veut dire Festus, il fait venir Paul qui est en prison en disant ben, il va un petit peu nous entretenir. Que faire ce soir ben, comme Paul, c'est quelqu'un qui sait vraiment parler, certainement ce serait intéressant. Puis on va simuler, on va dire ben, cause pour ta défense et on va t'écouter. Voilà, donc dans Acte 26, verset 24, alors qu'il parlait, Paul, pour sa défense, Festus dit à haute voix, « T'es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Il ne comprenait rien. Hein. Et puis Paul y répond, « Je ne suis pas fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité, de bon sens que je prononce. » Le roi, donc il dit, ben, le roi Agrippa, qui est à côté de toi, Festus, est au courant de ces faits, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. En effet, ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Et puis là, il se tourne vers Agrippa, il faut se dire, il se tutoie hein, à cette époque, le vouvoiement n'existe pas. Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Je sais que tu y crois. Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit pour bientôt, que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi, à l'exception de ces chaînes. Ça n'est pas marrant hein, pour Paul. Donc je me dis, ouais, il parle, il a des chaînes aux pieds. C'est bon. Dernier texte. Que je lis, là, ce n'est pas un récit, si on veut, c'est Pierre. Donc lui, il exhorte, comme on dit, hein, donc il donne des bons conseils à des disciples qui sont bien plus loin. Et puis, il écrit ça dans 1 Pierre 4, 15. que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué. Je trouve ça un peu marrant comme exhortation, mais bon. Que personne parmi vous ne souffre pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Voilà. J'ai lu trois passages. Le fil rouge ? J'ai passé un petit peu vite. Il y a trois fois le mot « chrétien ». Dans chaque passage, il y a un verset avec « chrétien ». Mais j'ai fait pour que vous ne le remarquiez pas. Et ce qui est particulier de ces trois passages, ou disons la chose autrement, il y a combien de fois le mot « chrétien » dans toute la Bible, 1500 pages ? Trois fois. C'est ça. Peut-être que si vous allez sur votre smartphone, la Bible S21, vous faites une recherche chrétien, vous l'avez quatre fois. Mais c'est simplement que le traducteur ou les traducteurs ont une fois traduit saint, le mot saint, par chrétien. Mais en grec, la Bible est écrite en grec, trois fois le mot chrétien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu, ça a été popularisé, pas seulement comme nom, mais comme adjectif. Qu'est-ce qu'il y en a des choses chrétiens ? Je veux dire, il y a les librairies chrétiennes, des livres chrétiennes, des camps chrétiens, et j'en passe. Mais on constate une chose, c'est que le mot chrétien, qui est devenu populaire, qui est un très beau mot, très beau nom, il a, comment dire, il a pris, non, je cherche un autre mot, mais si vous voulez, il a absorbé, par exemple, le mot saint. À l'époque, Paul, il écrivait aux saints qui sont à Éphèse. Vous verrez aujourd'hui que je vous dis, écoutez, on va écrire aux saints qui sont à Genève. Vous dites, non, on va écrire aux chrétiens qui sont à Genève, c'est la même chose. Donc on voit que chrétien a finalement éliminé d'autres termes, et notamment aussi le mot finalement disciple. Partiellement, ça l'a aussi absorbé. C'est pour ça que Philippe Rottenbüller, notre pasteur, dernière étude biblique, a dit sans développer, il a dit, Jésus n'a pas dit à ses disciples, faites de toutes les nations des chrétiens. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Voilà, ça, c'est la particularité. Mais il y a encore autre chose qui est très particulière avec ce nom de chrétien, c'est que si on regarde, ce n'est pas les membres de l'Église, ce n'est pas les disciples qui ont dit, tiens, on pourrait s'appeler chrétien à cause de Christ. Non. C'est des extérieurs, des non-croyants, à Antioche, des habitants. Ils voyaient bien ces gens qui se regroupent, qui font du bruit, qui chantent, qui témoignent. Et puis, il fallait bien dire, c'est qui ceux-là ? Il fallait trouver un nom. Puis comme ils parlaient toujours de Christ, non seulement ils parlaient de Christ, mais ils témoignaient, il y avait des guérisons, des signes, ils les ont appelés chrétiens. C'est pas mal, ça, c'est pas si grave. Non, c'est pas si grave. Mais on peut quand même juste souligner qu'en grec, parce que c'est un contexte grec, hein, les gens ils parlaient apparemment le grec, là, Christ, c'est Christos. Et puis, chrétien, c'est Christianos. Ils ont fait de Christos, Christianos. Et apparemment, ceux qui connaissent un peu ce principe grec, il y a un petit peu un côté moqueur. C'est pas que, waouh, c'est bien. C'est un peu la clique du Christ, si vous voulez, Christianos. Voilà, donc ça c'est la deuxième particularité, c'est que ce n'est pas des croyants qui ont donné ce nom. Voilà, aujourd'hui c'est le contraire, hein. Si quelqu'un se retrouve, trois personnes ont une idée, ils vont se donner eux-mêmes un nom, on ne va pas attendre qu'on les qualifie. Il y a 56 ans, pour être approximatif, non exact, les jeunes de cette église, tous les jeunes de cette église sont partis à un camp chrétien. En fait, c'était quatre, parce qu'on n'était que quatre jeunes. Hein, donc. Et j'en faisais partie. Et en revenant, nous sommes revenus enthousiastes. J'avais 16 ans, mon frère 17 ans et demi, il y avait encore deux filles. Et on était enthousiastes. Et on a dit, nous, les copains, on fait un groupe de jeunes qui n'existait pas encore. Et alors, on s'est retrouvés un dimanche après-midi. Et on a fait comme un ordre du jour, pour dire comment on va s'organiser, où c'est qu'on va se retrouver, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Mais le premier point que nous avons discuté, qu'est-ce que c'était ? quel nom on va se donner ? Et à l'unanimité, on a dit les J-Croix. Donc, on n'a encore rien fait que nous nous appelions déjà les J-Croix. Et puis, bon, ça a duré un certain temps. Et on voit qu'à l'époque des chrétiens, des premiers chrétiens, c'était le contraire. Ils ne se donnaient pas de nom. Donc, ça, c'est particularité de ça. Mais, et à l'évidence, il y a un lien entre chrétien et Christ, qui est un beau lien. Mais il faudra encore savoir qu'est-ce que ça veut dire, Christ. Il y a une anecdote intéressante dans la Bible. C'est un petit peu comme un lexique où on nous dit qu'est-ce que c'est Christ. Et cette anecdote, c'est ainsi. C'était à cette époque-là, ou un peu avant, quand Jésus avait une trentaine d'années, il commence à se faire connaître. Et puis voilà qu'il y a un jeune qui va vers son frangin qui était un peu plus âgé que lui. « Hé, frangin, Simon, tu ne me croiras jamais, mais on a trouvé le Messie. » Il faut dire qu'à cette époque-là, pour ceux qui aimaient la parole, ils attendaient le Messie. C'était un thème pour délivrer Israël, mais aussi pour amener le règne de Dieu sur ce pays. Et puis ça, on le lit en fait dans Jean. Et puis Jean, c'est Jean 1, 41. Donc, il rencontre son frère Simon. Vous savez qui c'est, Simon ? C'est devenu Pierre. Voilà, comme ça. On lui dit, hé, Pierre ! Ben dis donc, il a appris encore beaucoup de choses après ça. Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. Parce que Jean, qui écrit en grec, il écrit à des gens qui ne savent, j'allais dire, que le grec apparemment, puis voilà qu'il leur mentionne le mot Messie. Et les Grecs, ils savaient ce que voulait dire peut-être Christ, mais ils ne savaient pas ce que ça voulait dire Messie, donc il fallait une traduction. Messie, c'est-à-dire Christ. Alors nous, on connaît un peu les deux, hein, mais c'est l'occasion de répéter, Christ, c'est le Messie, c'est Christ, c'est la même chose. Vous pouvez dire Christ, vous pouvez dire Messie. La seule chose, qu'est-ce que vous comprenez le mieux ? Parce qu'à la fin, il y a aussi qu'est-ce que c'est le Messie ? Et là, il y a quelque chose d'étonnant, parce que le grand public, les gens dehors, ailleurs, et je ne dis pas qu'ils connaissent tous Jésus-Christ, mais pour ceux qui savent qui est le Christ, vous avez le micro-trottoir, c'est quoi Christ pour toi ? C'est quoi Messie pour toi ? Alors, je vous lis une phrase parce qu'elle est mieux dite que si je la disais moi-même. C'est un paradoxe linguistique fascinant. Dans le langage courant, le grand public comprend intuitivement le rôle ou la fonction derrière le mot « Messie ». Alors que le mot « Christ » est presque systématiquement confondu avec un simple nom propre. Jésus, prénom, Christ, notre famille, ben voilà, tout va bien. Et ce n'est pas ça. Tandis que quand vous dites « Messie », et d'ailleurs pour illustrer ça, vous connaissez un certain Lionel Messi ? Il n'y a aucun lien entre le Messie et le Messie. On est d'accord. Et pourtant, combien de jeux de mots il y a eu ? Combien dans la presse sportive, on a parlé de ce Messie qui est un Messie ? Et puis je cherchais juste, mais pourquoi ? Ben, c'est un sauveur d'équipe. Il a débloqué d'innombrables matchs mal embarqués, tant avec le FC Barcelone qu'avec l'Argentine. C'était dans ce sens-là un Messie, le titre suprême, en guidant l'Argentine à la victoire. Bon, pas deuxième, c'est pas mal, hein. Mais en guidant l'Argentine, la Coupe du Monde 2022, il a mis fin à 36 ans d'attente pour son pays, renforçant cette image de guide providentiel. Et voilà pourquoi peut-être les gens... Oui, Messie, ça parle un peu plus déjà. Mais bon, nous sommes, chrétiens. Et pour nous, Messie, c'est encore un petit peu plus, hein. Et si on voit, c'est quelques décennies ou siècles avant Jésus, quand les prophètes... Les psaumes, etc., a été popularisé dans les synagogues ou au temple. Hein. Il y a des gens sincères qui ont médité, qui ont réfléchi et qui ont discerné qu'il y avait une promesse. La promesse d'abord de la résurrection, ce n'était pas évident. Du temps de David, on ne parlait pas de la résurrection. Et là, ils ont réalisé, non, il y a une espérance, ce n'est pas fini après la mort. Puis la deuxième chose, ils ont réalisé, il y a un Messie qui vient. il y a un Messie. Alors, Messie, je répète, comme vous le savez, mais c'est le fait de oindre d'huile, de faire une onction. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est pourquoi on le fait. C'est pour nommer un roi. Un roi est nommé, alors on lui verse de l'huile, on le bénit, et c'est ça, le Messie. Donc, il y avait cette espérance. Donc, le Messie, c'est ça. Et puis, quand on dit alors qu'il y a un roi qui vient, ça veut dire qu'il y a un royaume. J'ai été frappé ce matin parce que, bon, attentif à mon sujet et puis au chant, c'est qu'il y a eu au moins 3 chants qui ont parlé du règne qui vient, du règne compris, du royaume de Dieu à quelque part. Et on réalise que c'est notre thème, finalement. Aussi, ce qui est frappant, parce qu'il y a plusieurs paroles. Hein. D'un côté, le royaume, le roi, il est déjà là. Il est dans nos cœurs, il est dans l'Église. Mais il n'est quand même pas partout, il n'est pas sur toute la terre. Et puis quand, après que Jésus est revenu à la vie, parce que si on reprend, tous ceux qui ont espéré dans le Messie, qui ont reconnu Jésus comme Messie, quand il est mort, tout s'est écroulé. On s'est trompé. Et quand il est revenu à la vie, ça revient. Et ils ont eu l'occasion de discuter 40 jours avec Jésus, qui était ressuscité, mais qui était encore là. Enfin, peut-être pas en permanence, mais enfin, tout d'un coup, il était là. Et ils ont parlé de quoi ? Du royaume. Et à la fin de ça, eh bien, ils ont posé une question à Jésus, quasiment, je pense, la dernière. Ils ont dit... Alors, c'est à ce moment-là, parce que Jésus il a dit, vous allez recevoir une puissance. Puis il dit, c'est à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël, le royaume pour Israël. Ça veut dire que le thème était toujours présent. Voilà, ça c'est quand on parle de Christ, quand on dit Jésus-Christ, il y a tout ça. Vous dites, c'est lui le Messie, c'est lui le roi, et il vient. Parce que, voilà, le royaume, il est aux cieux, mais on l'a chanté, qu'il vienne aussi ici, qu'il s'étende à quelque part. Alors, peut-être une question, qu'est-ce que vous pensez ? C'est mieux règne ou royaume ? On dit que ton règne vienne, est-ce que c'est mieux de dire que ton règne vienne ou est-ce que ce serait mieux de dire que ton royaume vienne ? Cherchez pas trop, parce que le texte, il est en grec. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre, c'est basiléa. Vous pouvez choisir, règne, royaume, c'est du kif-kif bourricot. Basiléa, vous savez qu'il y avait une ville en Suisse qui s'appelait Basiléa, du temps des Romains. C'est quoi ? Bâle. Et c'est étonnant parce que quand les Romains étaient là, il y avait bien des noms. Mais Romains, Aventicum, Avanche, Petinesca, c'est du latin ça. Mais Basiléa, je crois qu'il n'y a pas de réponse, on ne sait pas très bien pourquoi on met un mot grec. Et ce Basiléa signifie royaume. C'est marrant, c'est bien. Alors là, je fais un petit crochet parce que moi, ça parle à mon cœur. Mais en 1897, à Basiléa, non, à Bâle, au royaume, à Bâle, il y a un premier congrès sioniste. Il faut savoir qu'à ces années-là, on ne connaît peut-être pas trop l'histoire, mais la situation des Juifs, surtout à l'Est, en Russie, c'est catastrophique. Et là, il y a un homme qui s'est levé, il n'était pas spécialement croyant, mais il était juif. Il a dit non, mais ça ne va pas. Il faut qu'il y ait une solution. Il faut un État. Et ils ont fait ce congrès sioniste. On dit sioniste à cause de Sion. Dans la Bible, il y a toujours ce mot Sion, et c'est Jérusalem. Et donc, ils se retrouvent là, et il y a eu ce premier congrès à Bâle. Et puis, à la fin, il rentre dans sa chambre d'hôtel, il prend son petit livre de souvenirs. Oui, son cahier, je pense. Il écrivait un peu ce qu'il vivait. Et il a écrit ceci. Il a dit, si je devais résumer le congrès de Basiléa, non, le congrès de Bâle, en une seule phrase, que je me garderai de prononcer publiquement, il a dit, je l'écris, mais je ne suis pas bête, je ne veux pas le dire. Hein. Mais je dirais ça. À Bâle, j'ai fondé un État juif. Si je disais cela aujourd'hui, en 1897, publiquement, un rire universel serait la réponse. Waouh, tu pars. Dans 5 ans peut-être, dans 50 ans sûrement, tout le monde comprendra. 1897 plus 50, 1947, l'ONU décide la possibilité pour les Juifs d'avoir un État qu'ils ont accepté et qu'ils ont appelé Israël. Voilà pourquoi moi j'aime bien Basiléa. Vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas le royaume de Dieu. Bon, de toute façon, les termes, hein, aujourd'hui, on n'est plus tellement des royaumes, mais ce n'est pas encore le Messie qui règne, mais c'est l'étape, c'est une pierre qui a été posée il y a 50 ans. Voilà, bon, ben, on a compris, Christ, le Messie, le royaume. Les chrétiens, on le dit pour la première fois, 10 ans après qu'il y a la première Église. Puis avant, alors, ils étaient plutôt dans ce qu'on appelle la Judée. Ils n'étaient pas encore à Antioche. Donc les Judéens, parce que c'est aussi le nom qu'on donne à ceux qui habitent la Judée. Les Judéens, quand ils voyaient ces gens, ils disaient, t'as vu les... Ils disaient quoi? On ne disait pas les chrétiens, puisque ça n'était pas inventé, puis ils ne parlaient pas le grec, ils parlaient l'hébreu. Vous avez une idée? Il y a une réponse aussi. Et bien là, je ne vais pas lire 3 textes, mais 2. Et puis, ça se trouve dans Acte 24. On va voir si ça joue. Acte 24, 5. On revient avec Paul, hein, Paul Saul, c'est la même chose. Il est arrêté. Là, c'est juste avant qu'il soit après chez Festus. Hein. Acte 24, 5. Il est arrêté. Et puis, ceux qui sont contre lui, ils disent ceci. « Nous avons découvert que cet homme est une peste !» pas sympa, hein. « Il provoque des révoltes parmi tous les Juifs du monde. » C'était des menteurs. « C'est un chef de la secte des Nazaréens. » C'était ça. C'était les Nazaréens. Mais les Nazaréens, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de Nazareth. C'est en fait les habitants de Nazareth. Mais quel rapport? Il faut remonter même avant que Jésus soit mort et ressuscité. Jésus a grandi à Nazareth. C'était un Nazaréen. Quand il a engagé tous ses disciples, Pierre, tout cela, c'était des gens, des Galiléens du coin. C'était, on peut dire, des Nazaréens. Mais le problème, si on veut, ce n'est pas un problème, mais la particularité, c'est qu'ils avaient un accent. Nous, on dit, voilà, quand ils venaient à Jérusalem, puis qu'ils parlaient, c'est les Nazaréens. Et puis comme, finalement, ça tournait autour de Jésus et que pour finir, c'est devenu une église, on a continué à utiliser ça. Quand Pierre a eu la peur de sa vie, Jésus venait d'être arrêté, il risquait aussi, lui. Puis il y en a qui disent, mais toi, tu étais son ami, tu étais avec lui. Non. Il a dit, ouais, mais écoute ton accent. Voilà, Nazaréen, c'est ça. Je ne veux pas compliquer, mais peut-être je fais quand même une mini-parenthèse, parce qu'il y a aussi le vœu de Naziréa. Puis il y en a qui pourraient penser. Non, c'est vraiment Nazareth. C'est Nazareth et c'est dans ce sens-là. Puis alors maintenant, j'arrive à un deuxième texte mystérieux. Peut-être que dans une minute, vous allez me dire, mais non, ce n'est pas mystérieux, vous m'expliquerez. Mais c'est tout au début des évangiles, Matthieu 2. Où ai-je mis ça? Voilà, Matthieu 2, verset 23. Donc vous savez que Jésus est né en fait à Bethléem, hein, près de Jérusalem. Et puis qu'il y avait un roi, tiens, c'était l'ancêtre d'Agrippa. Bon, un roi, comment il s'appelait, Hérode, qui a tué les enfants tellement il avait peur qu'il y ait un petit roi dans ses enfants qui étaient nés. Enfin, Jésus était né à Bethléem, il le savait. Et ils se sont réfugiés en Égypte, et quelques années ou pas, ses parents ont dit, bon, maintenant on rentre. Et puis c'est ça qu'on lit. Et ils vinrent habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. C'est le même mot. Ah, ben tout s'explique. Bon, ok, c'est bien. Oui, mais dites, afin que s'accomplissent les prophètes, si quelqu'un peut me donner la référence, alors je vous remercie. Et pas seulement moi, même encore des dizaines de théologiens, on se casse la tête. Où c'est que c'est écrit qu'il sera appelé Nazaréen? On ne sait pas. Mais quand on veut chercher, puis qu'on est dans un monde hébraïque, on peut essayer de gratouiller dans le mot, dans le nom. Et Nazareth, l'hébreu travaille avec les consonnes. Les voyelles sont importantes pour la prononciation, puis peut-être pour donner un sens. Nazareth, c'est N-Z-R, plus exactement N-T, c'est pas Z, c'est T, Nazareth. Et quand on travaille avec on appelle ça une racine, il faut dire qu'une racine, dans la langue hébraïque, moi c'est mon bonheur, c'est ce que j'aime, vous trouvez le sens. C'est-à-dire que ça porte le sens du mot. Et que tous les mots qui ont cette racine, et c'est facile à l'identifier en hébreu, ce n'est pas des synonymes, attention, mais il y a une idée qui est la même. Puis faut la des fois, elle est évidente, puis des fois pas. Ben, j'en prends un qui est évident, vous prenez LMD. LMD, vous mettez A, lamad, ça veut dire apprendre. Vous mettez IE, ça fait limed, ça veut dire enseigner. Vous mettez un T devant, puis vous mettez AI, ça fait talmid, disciple ou un élève. Et donc, on voit bien le lien, ce LMD, c'est l'apprentissage. Et finalement, on trouve ça. Alors, des fois, c'est évident, puis des fois, ça l'est moins. Peu importe, on prend ce NZR. Bon, je dirais quand même, il y a une idée de préserver, une idée de protéger dans ces trois consonnes. Et voilà, et ça, ce n'est pas moi hein, qui le vois, mais je crois que c'est beaucoup de... Ouais, c'est des théologiens qui ont vu... dans Ésaïe 11:1, moi je vais le prendre. Je vais même le lire un peu plus long que juste là où il y a cette racine. Hein. Ésaïe 11:1, puis un rameau poussera de la souche d'Ésaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. Un rejeton, c'est Netzer, c'est la racine de ce nom machin. Un rejeton poussera un rejeton de ses racines. On peut le dire tout de suite, hein. On le sait, tout le monde le sait, je veux dire les juifs comme les chrétiens, on est en train de parler du Messie ici. C'est un texte messianique. D'ailleurs, c'est écrit en dessous, le Messie et son règne dans Ésaïe 11. Alors, je lis la suite parce que c'est beau. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, sur le Messie. Esprit de sagesse, de discernement, esprit de conseil, de puissance, esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur les apparences. Il n'adressera pas des reproches sur la base de oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice. Et il corrigera les malheureux, corrigera, mais dans le sens positif, de la terre avec droiture. Voilà. Et donc, ceux qui ont cherché ce lien, il sera appelé Nazaréen. Et puis, il faut savoir que c'est dans l'esprit des Juifs. Hein. C'est de jouer, de faire des jeux de mots, de faire des parallèles. Et c'est tout à fait plausible, bien que ce ne soit pas sûr, qu'il sera appelé Nazaréen. Autrement dit, c'est une manière de dire... C'est lui le Messie. Voilà. OK, maintenant j'arrive bientôt vraiment au bout. Mais un jour, mon enseignante, quand je faisais de l'hébreu par Zoom, hein, comme ça, elle me dit, tu sais ce que ça veut dire Notzrim? Je dis non. Oui, lui, chrétien. Mais ça veut dire chrétien. En Israël, aujourd'hui, il y a des chrétiens, d'ailleurs, parce qu'il y a la liberté religieuse, des chrétiens, des musulmans. C'est le seul pays, d'ailleurs, dans le Proche-Orient où on peut être libre comme ça. C'est des Notzrim. J'ai dit, ah, bon, voilà. Et puis, c'est après coup, plus tard, en attendant aussi, il y a mon frère Étienne qui est venu avec une réflexion. Il dit, ah, Notzrim. Mais Notzrim, ça veut dire chrétien. Mais il y a 2000 ans, ça voulait déjà dire chrétien. c'était chrétien il y a 2000 ans, pendant toute l'histoire du christianisme, les juifs, ils avaient aussi leur littérature. En hébreu, ils disaient les notsrim, notsrim, notsrim. Aujourd'hui, c'est les notsrim. Alors ma prof, elle dit, voilà. Et puis, je me dis, oui, mais moi, quand je fais de l'hébreu biblique, pourquoi elle m'a dit ça? Mais parce qu'on était en train de lire quelque chose dans la Bible en hébreu où c'était écrit notsrim. Ah, il faut que je le retrouve. Je vais chercher, je trouve. Ah oui, c'est bien, je vais le lire maintenant, super. Mais je trouve une deuxième fois. Il y a deux fois dans l'hébreu, vraiment l'expression notsrim. Il y a une fois, c'est pas sympa. Puis une fois, c'est vraiment bien. Bon, je laisse le... Je prends ce qui est bien pour s'encourager. Puis tout à coup, j'ai dit non. Il faut lire les deux. Je vais vous dire pourquoi. Alors maintenant, je veux vous citer, je veux le lire. On ne va pas faire une analyse sur les traductions en français, sur le lien sémantique, etc. Je mets notre stream à la place, direct. Alors, Jérémie 4, 16. Dites-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des Notsrim viennent d'une terre lointaine, ils poussent des cris contre les villes de Juda. C'est vraiment des gens qui mettent la pression et qui persécutent Juda. Je prends le deuxième, Jérémie 31,6. Car le jour vient où les Notsrim crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel, l'autre Dieu. On peut aussi l'adresser, j'allais dire spécifiquement aux Juifs. Levez-vous, montez à Sion vers l'Éternel, votre Dieu. Montez à Sion, c'est l'Alia, c'est le sionisme. Hein. Et voilà, on a deux attitudes. Et moi, je me dis, j'ai jamais entendu des Juifs parler de ça, ni ma prof, ni personne d'autre. Mais ils connaissent peut-être ces deux choses. Et puis, il faut dire que les chrétiens... Maintenant, on peut faire un parallèle. Notre stream chrétien, peu importe, c'est la même chose, on va dire. D'autant plus que chrétien, c'est Christ. Notre stream, si on prend ce Ésaïe 11, le rejeton, Netzer, on peut dire que c'est aussi le lien avec le Messie. Bref, notre stream chrétien, il y a une sale période à un moment donné. Si vous faites l'histoire du christianisme, ça fait frémir, désolé de le dire. Envers les Juifs, pour eux, ben, c'est ça qu'ils retiennent de l'histoire des Notsrim, des chrétiens. Mais aussi, des chrétiens ont été persécutés par des chrétiens. Si vous prenez les Albigeois, mais aussi les... Aidez-moi. Oui, Anabaptistes, mais... Oui, aussi, tout à fait. Mais je pense aussi, pardon, les Huguenots. Et les protestants d'Espagne. On voit, il y avait presque un parallèle entre la persécution des Juifs et là. Mais ça veut dire qu'il y a un aspect négatif, en tout cas dans le nom. Et puis, finalement, il y a aussi ces Notsrim qui montrent de l'amitié et qui les encouragent. Voilà, donc moi, c'est ça un peu la parole que je dis. Eh bien, soyons des Notsrim qui encouragent Israël et qui attendons le royaume pour Israël, mais pour le monde entier, hein. J'ai noté encore un truc qui peut faire comme aussi une explication. Quand en 48, il y a des, on va dire, on va se comprendre, des chrétiens juifs qui sont montés à Jérusalem, qui sont allés, ils ont dit, il faut qu'on aille là-bas, on va faire une église, mais si on s'appelle Notsrim, on va être des traîtres pour les juifs. Si on met chrétien, ça ne va pas changer le problème. Et puis, c'est là qu'ils ont trouvé une combinaison. Ils ont mis messianique. On dit les juifs messianiques. C'est toujours le Messie, mais ce n'est pas notre stream, et puis ce n'est pas chrétien, c'est les juifs messianiques. Mais c'est nos frères et sœurs, on est sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est fini. Mon ami Pipo, il me disait, c'est quoi ton thème ce matin? Ben, qu'est-ce que je dis? Moi, j'ai dit chrétien, notre stream. C'est le titre chrétien Notsrim. Et puis ceux qui voient ça, ils disent, mais de quoi il a parlé? Voilà, chrétien Notsrim. Merci. Seigneur, j'aimerais te prier pour les Notsrim, pour les chrétiens, pour les messianiques et pour Israël, pour ceux qui attendent le Messie et aussi pour ceux qui ne l'attendent pas mais qui le pressentent. Seigneur, pour que leur cœur soit aussi préparé, imbibé, et que nous soyons prêts, comme souvent on nous l'a dit, veillons et prions, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. mais nous savons que le royaume vient. Même si on n'a pas tout compris, il vient. Amen.